Bonsoir tout le monde. Voilà, nous commençons maintenant. Il est 21h29, comme j'avais promis, 21h30. Je tiens l'heure avec un petit peu d'avance. Donc, nous allons poursuivre donc ce sixième enregistrement sur le Shaar HaBitachon, c'est-à-dire le portique de la confiance en Dieu. Nous avions abordé donc Motaï Shabbat, donc là c'est en début de semaine. Une comparaison entre un alchimiste capable de transformer de l'argent ou de l'étain ou tout autre métaux, en particulier des métaux de faible valeur, en or, et que celui qui avait le bitachon avait, nous avions donné cette introduction, une dissupériorité par rapport à la personne par rapport à cet alchimiste. Et donc, nous allons commencer dans ce sixième enregistrement à aborder le premier de ces 10 supériorités qu'a celui qui a la confiance en Dieu par rapport à un alchimiste. Eh bien, nous commençons. Hidatam, donc, la première supériorité qu'a celui qui a de la confiance en Dieu par rapport à un alchimiste, chez Baal, qui n'y a de sabrir et de varim. Un alchimiste, donc remettons-nous dans le contexte du livre, c'est-à-dire au XIe siècle, donc, où on pensait que quelqu'un pouvait, avec certaines transformations chimiques, transformer n'importe quel métal en or. On peut y arriver, ça peut y arriver, mais pas avec les moyens de l'époque. Il faut des accélérateurs de particules pour faire des transformations complexes. Donc le Baal HaKimia, donc l'alchimiste, lui, il a besoin, en fait, pour pouvoir exercer son pouvoir, il a besoin de matériaux spécialisés donc pour faire cette transformation. Il a besoin d'étain, il a besoin de fer, il a besoin de choses pour transformer ce fer en or, pour pouvoir arriver à transformer en or. Zulato, il peut rien faire s'il n'a pas ses matériaux. Il ne peut rien sortir en pratique de son activité s'il n'a pas des ustensiles particuliers, ses alambics, et s'il n'a pas les matériaux de base nécessaires à cette transformation. Vélo, il ne va pas trouver ces choses-là à tout instant, puisqu'il est donc dépendant, donc cet alchimiste est dépendant du fait de trouver ces matériaux, ou bien de trouver ses propres instruments. Si quelqu'un les lui casse, il ne pourra plus rien faire. Il ne peut pas les trouver à tout moment, à tout instant, lorsqu'il le veut, à tout moment où il se trouve. Et donc, en conséquence, que sa subsistance n'est pas obligatoire. Il n'a pas une certitude qu'il va obtenir sa subsistance, dans toutes circonstances, à tout endroit où il va se trouver. Mais parce que il ne va pas pouvoir commencer ou terminer son travail dans toutes circonstances. Et en conséquence, sa parnassa ne lui est pas assurée. Sa subsistance, son moyen de vivre, son revenu, si vous voulez, mais son moyen de vivre, c'est quand même mieux. Ne lui est pas assuré. Et à beau terme, mais le rime a contrario. Celui qui a la confiance en Dieu. Tarfo, Mouftahlo, Mikol, Siba, Misibota, Olam. Comment dirais-je? Sa proie. Terev, c'est une proie, mais c'est sa subsistance, si vous voulez. Sa subsistance va lui être assurée dans toutes les circonstances possibles qui vont subvenir dans le monde. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu a la possibilité, donc le Saint béni soit-il, a la possibilité de présenter, de lui donner sa parnassa à tout moment, dans toutes circonstances, à travers tout moyen intermédiaire, dont il va pouvoir bénéficier, toute la parnassa qui va pouvoir lui permettre de subsister dans ce monde, que ce soit quelque chose de petit, que ce soit de grand, que ce soit peu, que ce soit beaucoup. En toutes circonstances, il va pouvoir, Akadosh Baruch Hu est la source, et va être la source de la parnassa, de la subsistance, en fonction de la volonté que le Créateur va pouvoir avoir vis-à-vis de cet individu. Comme le dit le Passouk, comme le dit le verset dans Devarim, donc dans Devarim, le verset nous dit: ouais, il t'a fait souffrir, endurer la faim, puis t'a nourri avec cette manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères. Pourquoi faire? Les ma'an ont dit à Acha, afin que tu saches qu'il a à la lechem levado yahye Adam, que ce n'est pas seulement sur le pain que vit l'homme, qui al kol motzafi Hashem yahye Adam. Parce que l'homme va vivre par tout ce qui sort de la bouche de Dieu, c'est-à-dire l'ordre de Dieu, c'est par ça que l'homme va pouvoir vivre. Bonsoir à tous ceux qui sont présents. Donc, je reprends le verset qu'on vient de dire, comme le dit donc dans le verset que je viens de vous traduire, que Akadosh Baruch Hu leur a fait vivre des difficultés et ensuite leur a donné la manne, afin qu'ils sachent que ce n'est pas seulement sur le pain que l'homme va vivre, que la vie de l'homme, elle n'est pas dépendante uniquement de circonstances naturelles et de la et de la et de, et de, et de la nourriture qui va pousser naturellement, qui a alcool motzafi Hashem, parce que c'est de ce qui sort de la bouche de Dieu, de l'ordre de Dieu, que Akadosh Baruch Hu va le faire nourrir. De tout ce que Akadosh Baruch Hu va créer par la parole, puisqu'on sait que Akadosh Baruch Hu crée par l'équivalent de la parole, Akadosh Baruch Hu ne parle pas, mais par l'équivalent de la parole, alors il va pouvoir donner à l'homme sa subsistance par la volonté du Créateur. Pardon, excusez-moi. Qui a ses bottes et nan parce que les circonstances, les raisons pour lesquelles il va pouvoir donner, les moyens par lesquels il va pouvoir donner la subsistance à un homme, par lesquels il va donner sa subsistance, qui se trouve en sa possession, et il n'en manque pas du tout, il n'en manque pas, il en a des millions, il peut créer toutes circonstances possibles et imaginables pendant lesquelles il va pouvoir donner à l'homme sa subsistance, indépendamment des circonstances matériel et naturel dans lesquels cet homme va vivre, et on va le voir par des exemples. À tout moment, à tout endroit, caché, yadarta, comme tu le sais, comme tu l'as appris. Et là, on va commencer à ramener des exemples. Midevar dans l'histoire qu'il y a eu avec Eliaou Hanavi Zachour le Tov, avec les corbeaux. Donc, dans cette histoire de Eliyahu Hanavi, Zachour le Tov et les corbeaux, lorsque Eliyahu Hanavi s'est caché dans un endroit qui s'appelait Nahal Kérit, les Nahal, c'est une c'est pas une source, c'est comment ça s'appelle? Un torrent. Donc, un torrent qui s'appelait Kérit, qui était lointain, et les corbeaux lui apportaient sur place à manger chaque jour du pain, de la viande, de la cuisine, des cuisines du roi, qui s'appelait le roi à l'époque, il s'appelait Ahav. Alors, je vais vous raconter l'histoire avant de passer à la suite. À l'époque, donc on voit ça dans Roi 1. Donc à l'époque du roi Ahaav, qui avait contrarié, qui avait mis en colère, si on peut dire, si on peut dire. Hachem parle le fait qu'il faisait de la Avodazara, qu'il faisait de l'idolâtrie. Gazar Eliyahu Navi a décrété, et donc Akadosh Baruch Hu l'a suivi selon l'ordre d'Hachem, Eliyahu Navi a décrété qu'il n'y ait plus d'eau, qu'il n'y ait plus de pluie, qu'il n'y ait plus de pluie pendant 3 ans. Et Akadosh Baruch Hu lui a ordonné d'aller se cacher du fait des ordres du roi Ahab qui voulait le tuer, dans cet torrent là-bas, dans cet endroit qui s'appelait Nahal Kérit. Et Hachem, pour le nourrir, puisqu'il était isolé, il n'avait pas moyen de subsistance, il a ordonné à des corbeaux de le nourrir, de nourrir Eliyahu Navi, et ils apportaient 2 fois par jour du pain et de la viande, et ils buvaient de l'eau de la source, du torrent, comme on le voit dans Melachim, dans les Rois, Roi 1, chapitre 17. Donc ça veut dire que même dans un endroit lointain, Akadosh Baruch Hu, s'était forcé de prodiguer, enfin, à prodiguer la subsistance à Eliyahu HaNavi. On le voit également dans un autre exemple qui nous est rapporté maintenant, que cette femme veuve, Isha Almana, cette veuve, et dans l'histoire donc de cette femme qui était une femme veuve et qui avait une sorte de gâteau et des cruches d'eau, donc des galettes, une sorte de galette et de cruches d'eau. Lorsque Eliyahu HaNavi était dans le désert, et on va raconter l'histoire maintenant, dans quelques instants, alors, Akadosh Baruch Hu lui a fait envoyer ces sortes de gâteaux et des cruches d'eau, et il a mangé, il a bu, et par l'intermédiaire du fait qu'il a mangé avant de partir, il a pu se déplacer pendant 40 jours et 40 nuits dans le désert. Alors, avant de passer à la suite, je vais vous raconter l'histoire telle qu'elle est rapportée dans les Rois chapitre 17. Et donc, on y va. Donc, cette femme veuve, c'est quoi l'histoire? Donc, une fois que on vient de le dire que Eliyahu HaNavi avait décrété sur l'ordre d'Hachem de faire une sécheresse pendant 3 ans, alors. Le torrent s'est asséché, il n'y avait plus d'eau, donc il fallait bien qu'il subsiste. Et pendant cette sécheresse, à la fin de la pendant cette sécheresse, Eliyahu HaNavi est parti suivant l'ordre d'Hachem, voir une femme veuve dans la ville qui s'appelait Tsarfat, comme la France, mais c'est pas la France, c'est la Tsarfat, à Smoukha et Sidon, donc à côté de Sidon, qui est aujourd'hui au Liban. On bikesh et il lui a demandé un peu d'eau. Vechetar assez l'eau, patlechem, qu'elle lui fasse du pain. Alors elle lui a dit, Batomer, elle lui a répondu, Hay Hashem Elokecha, imieshli maog, par le Dieu vivant que tu sers, je n'ai pas une seule galette. Ki im melokafkemach pekad. Bakad, mais rien qu'une petite poignée de farine dans une cruche, ou ma'ad shemen batsapahat, elle avait que cette poignée de farine et un peu d'huile dans une bouteille. Je ramasse maintenant 2 petits morceaux de bois, ou vati va asitiou, lid velivni va chalenu va matnu, je vais rentrer, je vais faire un plat pour moi et pour mon fils, on le mangera, et puis après on attendra la mort. Puisqu'ils étaient en pleine sécheresse. Alors, Eliyahu HaNavi lui a répondu, Yomer Eliyahu, Eliyahu, Al-Tirei, lui a répondu, ne crains rien. Boir Asi, Kitvarer. Seulement, tu fais comme tu as dit. Ach Asidi, Misham, Oga, Ketana, Barishona. Mais simplement, tu vas me faire un tout petit gâteau pour moi en premier. Veotset li, et tu me le rapporteras. Tu vas me le sortir, me l'amener. Velach, Et pour toi, et pour ton fils, tu le feras en dernier. Qui croit à Mar Hachem Eloke Israël, car ainsi a parlé Hachem, le Dieu d'Israël, Kadakemach Lotichla. La cruche de farine ne se videra pas. Elle va continuer pendant très longtemps à pourvoyer en nourriture, en farine. Lotichla, elle ne se terminera pas. Et la bouteille d'huile, en fait, la cruche d'huile ne diminuera pas. Adiom, tet Hachem Geshem, jusqu'au jour où Hachem donnera la pluie, al pene Adama, sur la surface de la terre. La telle va assez qu'il va Eliyahu. Alors elle l'a cru, elle a fait comme avait demandé Eliyahu Hanavi. Vatochal hu vehi, donc elle a eu à manger, elle avec son fils, ou Veta et toute sa maisonnée. Donc toute sa famille, Yamim, pour très longtemps. Kadakemah lo kalata, la cruche de farine ne se vide à point. Vatsapahat hachemen lo haser, ni la bouteille d'huile ne diminua. Kidvar Hachem, Hacher Dibier, Beyad Eliyahu, comme l'avait dit Akadosh Baruch Hu, par l'intermédiaire de Eliyahu, Anavi Zachor Letov. Donc ça, on vient de raconter l'histoire de Eliyahu Hanavi. Et donc, on voit, juste je reprends, Are She'en Ma'atzor Lachem Yoshia Ulchalchel et Beriyotav. Parce qu'on voit bien par là que Akadosh Baruch Hu n'a aucun frein, aucune limitation pour nourrir, pour voir à toutes ces créatures, Ime'at Imarbe, que ce soit peu ou que ce soit beaucoup. Parce que par là, on a bien vu dans l'histoire que je viens de raconter, qui est dans les rois, comment par la volonté d'Hachem, cette cruche de farine, ou Ma'at Hachemen et ce petit peu d'huile, ce fond d'huile, ont été les intermédiaires, les moyens qu'a utilisé Akadosh Baruch Hu pour donner la parnassa, pour faire subvenir aux besoins de Eliyahu Hanavi, mais surtout de cette dame et de son fils et de sa maison. Alors, donc, on voit bien dans ce deuxième exemple encore que ce n'est pas la confiance qu'a eu Eliyahu Hanavi, donc la confiance qu'a eu Eliyahu Hanavi et cette femme et cet enfant qui ont sacrifié un petit peu pour Eliyahu Hanavi, donc la confiance en Dieu qu'ils ont eue, leur a apporté beaucoup plus que ce que peut apporter cet alchimiste qui, lui, est dépendant des matériaux. Des matériaux qu'il pourrait ou ne pas trouver. Alors, on continue. Maintenant, on a une troisième histoire qui nous est ramenée donc dans le Havot Alevavot, vers Ougat, et Tzafim, vers Sapahat Amaim. Quand Eliyahu était dans le désert, alors, une fois qu'il est parti, Akadosh Baruch Hu lui a amené ses petits gâteaux et des cruches d'eau. Et il a mangé, il a bu par cette chose-là pendant 40 jours, 40 nuits. Donc ça, c'est le troisième élément que nous allons rapporter. Alors là, on se retrouve dans une autre époque. Vous vous rappelez que Eliyahu Hanavi, on le raconte plusieurs fois dans les Haftarot, Eliyahu Hanavi a... À l'époque, les Juifs, les Israélites, puisque c'était toutes les tribus, faisaient donc l'idolâtrie. Et Eliyahu Hanavi a convoqué les prêtres du Baal et leur a posé un défi pour dire qui allait faire brûler un sacrifice avec du feu qui viendrait du ciel. Eux, ils utilisaient des loupes et pour faire semblant que ça venait d'un dieu. Et Eliyahu Hanavi a détourné les loupes qu'ils utilisaient. Ils n'ont pas réussi à avoir le feu. Et par contre, le feu est sorti du ciel et a brûlé le sacrifice qu'a mené Eliyahu Hanavi. Et il y a une grande sanctification du nom de Dieu. Donc maintenant, il s'est passé qu'ensuite, il y a eu des problèmes pour Eliyahu HaNavi, une fois que cet événement s'est passé, alors qu'il avait eu une certaine heure de gloire. Et pourtant, de quoi s'agit-il? Une fois qu'Eliyahu HaNavi a sanctifié le nom de Dieu, donc au Carmel, et il a tué tous les Névis à Baal, tous les faux prophètes du Baal, alors il s'est enfui du fait de Isabelle, la femme du roi Ahav, qui voulait le tuer. Et par la suite, donc, il est dit, toujours dans le Passouk, dans Melachim, on est dans chapitre 19, verset 4, et les suivants, mais où alors Bamidbar? Et donc, Eliyahu HaNavi est parti dans le désert. Yeshev tahat rotem ehad. Puis il alla s'asseoir sous un genêt. Ishaal et nafsho, il implora la mort. Et nafsho lamut, pour mourir. Il va yomer, ravata Hashem, kach nafshi, ça suffit Hashem. Oh mon Dieu, prends mon âme, prends ma vie. Ki lotov anochi, mais avotai, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Alors, il s'est couché, il a dormi sous ce genêt et il s'endormit. Et puis, il y a un ange qui vient se poser sur sa main. Il lui dit, lève-toi et mange. Il regarda, il s'aperçut près de sa tête un gâteau cuit à la braise. Ou gâtretzafim, c'est un gâteau cuit à la braise, mais ça pas hatmaïm, et un vase plein d'eau. Et qu'est-ce qu'il fit? Alors il mangea, il but, puis il se recoucha. Vayashov malach Hashem shenit. Alors l'ange d'Hashem est revenu une seconde fois. Vayagbo, il vint le toucher. T'as touché, va yom er koum echol, lui dit, lève-toi, mange, ki rav mimecha darech, parce que tu as une très longue marche à faire. Va yakom, alors il se leva, il y a où? Va yochal, va yishté, il a mangé, il a bu, va yeler bechoach achila ari, et il a, par la force de ce qu'il a mangé, qu'est-ce qui s'est passé? Il a marché combien de temps? Arbaim yom ve arbaim alayla. Pendant 40 jours et 40 nuits, Adara Elohim Horev, jusqu'au Horev, la montagne de Hachem. Donc on voit que Kadosh Baruch Hu lui a donné peu, qu'est-ce qu'il lui a donné à manger, et ça lui a tenu 40 jours. Donc je termine cette partie. Arrêt chez Hachem, donc voici donc Hachem, Imsil et Alou et Parnassato, il a donné à Eliyahu qui avait confiance en Dieu, évidemment. Sa parnassa, sa subsistance, même dans le désert, par des intermédiaires extraordinaires que nous venons de voir. Voilà, ça c'était la troisième histoire que nous avons racontée. Et maintenant, nous allons poursuivre, une fois qu'on a terminé avec Eliyahu, juste un peu avant, là-bas, dans Melachim, donc dans le livre des rois. Roi 1, il y a deux parties dans les rois, il y a roi 1 et roi 2. Udvar, Ovadiaou et Imanevi'im. Et donc, on voit aussi l'histoire de Ovadiaou avec les prophètes. Chez Amar, qui a dit, le Passouk dit, je vais amener juste la fin du Passouk, va Ahbi, Minevi, Hachem, Me'a Ish. Il a caché, à l'époque, Isabelle, elle voulait mettre à mort tous les prophètes de Kadosh Baruch Hu. Il y en avait des nombreux à l'époque. C'était une époque où il y avait beaucoup de prophètes. De nos jours, il n'y a plus de prophétie. De nos jours, ça n'existe plus, la prophétie. Mais alors, qu'est-ce qu'il a fait Ovadiaou? Il a caché une centaine de prophètes. Il en a caché 50 dans deux souterrains, dans deux grottes. Hamishim Ishbimera. Donc il en a ramassé 50 dans deux grottes différentes et il les a nourris de pain et d'eau. Alors, Donc, il les a cachés là-bas sans une centaine de prophètes, parce qu'Isabelle voulait les tuer. Il les a séparés en deux camps, 50 dans une grotte et 50 dans une autre grotte. Chacune dans une grotte différente. Et il les a nourris avec du pain et de l'eau. On voit que donc, quel que soit l'endroit où on se trouve, Akadosh Baruch Hu, donne à ces personnes-là qu'il a décidé de sauver, cette centaine de prophètes, il leur donne d'une manière ou d'une autre leur moyen de subsistance. Même quand ils se trouvent dans une grotte, un endroit un peu profond, qui a une difficulté importante d'accès. Malgré tout, Obadiah Hu a réussi à leur amener tous les jours de quoi se nourrir. Et on va continuer et terminer ce cours vers Amar. Et il est dit également, maintenant, on se retrouve dans Tehilim, deux versets dans Tehilim, dans le chapitre 34 de Tehilim, donc la Bet Dalet, le verset d'abord Yud Alef, 11, et ensuite le verset 10. Donc le verset 11, il nous dit la chose suivante: Kefirim rachou verahevu vedorshe Hashem lo yasu kol tov. Donc on va expliquer. D'abord je traduis, ensuite on explique. Kefirim rachou verahevu, les lionceaux sont dépourvus, rachou, ils sont pauvres. Verahevu, et affamés, vedorshe Hashem, et ceux qui recherchent Hashem, lo yaseru kol tov, il ne leur manque rien. D'aucun bien. Il ne manque d'aucun bien. Qu'est-ce que ça signifie? Donc, on reprend Kéfirim, c'est-à-dire, on ne parle pas de lion physique, on ne parle pas de lion du zoo, on parle des hommes qui ont tout pour eux, qui sont grands, qui sont forts comme des lions. Et bien, parfois, Rachou, verrez-vous, ils sont pauvres et ils sont affamés. Et leur force ne leur sert à rien. Ne sert strictement à rien. Les torcher Hachem, par contre, ceux qui recherchent Hachem, Lo Yarseru Kol Tov, il ne leur manque rien de bien. Ceux qui ont confiance en Dieu, Lo Tersar Lahem, il ne leur manquera rien de toutes les bontés, de toutes les choses dont ils ont besoin, car Akadosh Baruch Hu leur prodigue tout ce dont ils ont besoin. Toute leur nourriture, si vous voulez, mais au sens le plus large du terme, c'est-à-dire tout ce dont ils ont besoin. Donc, on voit bien que ce n'est pas la force, encore une fois, c'est la confiance en Dieu qui donne la chose et non pas la force physique, intellectuelle, comme on l'avait vu dans les cours précédents, ou matérielle, ou la richesse. Et pour terminer, le dernier verset que nous allons ramener et expliquer, Ve'amar, donc toujours dans Tehilim 34, mais le verset 10 cette fois-ci, Yer'u Et Hachem Kedoshav, qui en marsor l'Iréav. Donc, Yirou, ça veut dire craignez. Dans la traduction du rabbinat français, ils avaient mis révérer l'Éternel. Donc, craignez l'Éternel, craignez Hachem, qui ça, vous, c'est saint, Kedoshav, qui en marsor l'Iréav, car il ne manque rien à ceux qui craignent Hachem. Alors, on va expliquer ça. Vous, les saints, c'est-à-dire ceux qui ont confiance en Hachem, vous, les saints d'Hachem, craignez Hachem uniquement, ne craignez rien d'autre, mais et ne craignez surtout pas qu'il vous manque quoi que ce soit dans votre vie. Qui aime, mahsor l'Iréav, parce qu'il ne manque rien à ceux qui le craignent. Il ne manque rien à ceux qui craignent Hachem. Et on va bien expliquer dans les détails. Parce que du fait que vous n'allez faire que ce que Akadosh Baruch Hu a demandé, alors lui, vous n'allez faire que sa volonté. Oui, assez. Lui aussi, il va faire vos besoins, il va remplir vos manques. Parce que c'est comme ça le chemin de Akadosh Baruch Hu, c'est comme ça qu'il a créé le monde. Tout celui qui demande Hachem, tout celui qui attend d'Hachem, tout celui qui est dans la confiance d'Hachem. Alors, Akadosh Baruch Hu lui donne la chose. Parce que lui, il attend que Hachem lui donne, alors Akadosh Baruch Hu va lui donner. Mais celui qui demande, qui fait des choses pour Akadosh Baruch Hu, dans l'attente que Akadosh Baruch Hu lui fasse du bien, alors, qu'est-ce qui va se passer si quelqu'un fait, il attend qu'Akadosh Baruch Hu lui fasse du bien uniquement parce que lui, il a fait quelque chose? Alors, Akadosh Baruch Hu, il va commencer à scruter un petit peu cette personne-là, à voir dans les détails son comportement, pour voir si effectivement il va pouvoir lui donner, les choses avec abondance. Il va être médakdek, il va commencer à être pointilleux avec cette personne. Mais par contre, celui qui fait les mitzvot uniquement pour accomplir la volonté d'Hachem et se coller à lui, si vous voulez, c'est une manière de parler, se coller, vraiment se rapprocher de lui au plus proche de ce qui est possible, de la plus grande proximité possible spirituelle, alors Akadosh Baruch Hu va lui donner l'ensemble de ce dont il a besoin sans vérifier quoi que ce soit dans les actions de cette personne, parce que cette personne s'est vraiment rapprochée d'Hachem et s'est collée à lui. Cette dernière explication est au nom du Alcher Akadosh, qui était un rave extrêmement important, qui vivait au XVIe siècle dans la ville de Tzfat de Safed, dans le nord d'Israël. Voilà, nous en avons terminé avec ce premier supériorité qu'a la personne qui a confiance en Dieu par rapport à l'alchimiste. Rappelons bien sûr que le livre Havot HaLevavot a été écrit au XIe siècle, et donc à l'époque on parlait beaucoup d'alchimie. Nous aujourd'hui on pourrait faire des analogies avec d'autres sujets. Et donc nous en avons terminé. J'espère pouvoir donner le prochain enregistrement Motsaï Shabbat vers la même heure. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Et Shabbat Shalom et à très bientôt. J'espère que cet enregistrement vous aura intéressé. Excellente soirée.